I've come here to Cairo to seek a new beginning.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos et la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Une semaine dans le monde, chaque dimanche de l'été, en direct, l'actualité au-delà de nos frontières, analyse, chronique, portrait, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et au programme de ce dimanche 10 juillet, à l'occasion de la visite de Barack Obama à Varsovie pour le sommet de l'OTAN cette semaine, retour en première partie sur l'évolution des relations entre nos deux continents sous sa présidence. Alliés historiques, les États-Unis et l'Europe n'ont pas toujours la même vision du monde. Entre rapports de dépendance et désaccords, bilan avec nos invités de cette amitié parfois contrariée. Et nous en discuterons avec Alexandra de Hoopscheffer, spécialiste de la politique étrangère américaine et des relations transatlantiques, et Christian Lequen, professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique étrangère de l'Europe. Avec la sociologue Sophie Baudigendreau, nous reviendrons également sur cette nouvelle tragédie aux États-Unis après la mort de deux Noirs américains abattus par des policiers cette semaine et celle de cinq agents de police jeudi dans une fusillade. En deuxième partie, il sera question de politique en Italie. L'Italie qui vient d'adopter une nouvelle loi électorale et qui s'apprête à voter en novembre rien de moins que la suppression du Sénat. Les enjeux de ces réformes sur la démocratie italienne avec l'écrivain Jacques de Saint-Victor et la journaliste Anaïs Ginori, correspondante à Paris de la Repubblica. Et enfin, nous retrouverons la chronique proposée par Hubert Védrine, aujourd'hui le politiquement correct. Mais tout de suite, c'est la revue d'actu. Et c'est avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Et une répression brutale et des persécutions systématiques, c'est le Parlement européen qui a ainsi qualifié mercredi le traitement des Rohingyas en Birmanie, et ce malgré une annonce récente qui semblait comme une ouverture.
C'était en effet une proposition qui a été émise fin juin. Les Rohingyas, donc, qui sont ce peuple de plus d'un million de musulmans dans l'ouest de la Birmanie bouddhiste, seraient désormais officiellement reconnus comme, je cite, « communauté musulmane » en état Rakhine. Ce serait donc une avancée pour des Rohingyas quasi apatrides dans leur pays depuis 2012, et cela marquerait aussi une évolution, pour ainsi dire, dans la logique de la victoire du parti démocratique LND à la fin de l'année dernière. D'ailleurs, l'opposante historique à l'ancienne junte, Aung San Suu Kyi, est désormais conseillère spéciale de l'État et ministre des Affaires étrangères, mais l'armée reste présente à tous les niveaux et sur le terrain, la situation humanitaire des Rohingyas est critique. La pression internationale se fait donc plus forte sur un pays qui prétend à l'ouverture économique. La rapporteure spéciale de l'ONU pour la Birmanie, Yang Yi Lee, était en visite la semaine dernière et elle a eu aussi des paroles sévères. Avant de présenter un rapport à l'Assemblée générale de l'ONU cet automne, elle parle ainsi de discrimination institutionnalisée.
Ils n'ont toujours pas de liberté de mouvement, pas de droit à l'état civil non plus. Ils n'ont même pas de pleine citoyenneté, aucun accès à l'éducation ou aux services de santé. Voilà ce que j'appelle une discrimination institutionnalisée, alors même que beaucoup d'entre eux vivent en Birmanie depuis des générations. Ma position n'a pas changé, le droit à avoir une identité doit être respecté. Et l'ONU et moi-même, nous continuerons de les appeler du nom qu'ils souhaitent, les Rohingyas, même si cette dénomination a provoqué beaucoup de tensions et de troubles. Avec les précédents gouvernements, alors même que j'employais le terme « Rohingya », les autorités persistaient à dire qu'il n'y avait pas de Rohingyas dans le pays, seulement des Bengalis. Cette fois au moins, aucun officiel ne parle plus de Bengalis. Et ça, c'est un premier résultat obtenu par la conseillère spéciale Aung San Suu Kyi. Donc mon rapport sera toujours très critique, mais j'essaierai d'être équilibré. Et je dirai aussi à la communauté internationale qu'elle doit se garder de toute complaisance quand il s'agit des droits de l'homme.
Et cette semaine, Xavier, c'était aussi la visite historique d'un premier ministre israélien en Afrique, la première depuis 1994, avec des enjeux non négligeables et pas seulement symboliques.
En effet, là, c'était l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et puis l'Éthiopie. C'était les quatre pays visités par Benjamin Netanyahou jusqu'à jeudi dernier. Visite symbolique, oui, puisque c'est en Ouganda, il y a 40 ans, qu'avait eu lieu une des plus importantes opérations antiterroristes israéliennes et que le frère de Benjamin Netanyahou y avait été tué. Visite aussi avec des enjeux enjeux matériels pressants et clairs. D'abord la coopération sécuritaire, il y avait un sommet régional en Ouganda, et coopération économique, avec là une délégation de 80 chefs d'entreprise israéliens. C'est ce qu'on appelle une véritable offensive de charme diplomatique, donc dans un contexte où, il faut le souligner, la diplomatie israélienne se fortifie. C'est d'abord la fin du différend avec la Turquie, et puis la nomination aussi récente d'un Israélien à la commission juridique de l'ONU. L'ONU, justement, et ses résolutions, peut-être est-ce là l'objectif ultime de cette visite, puisque la question de la colonisation est au cœur d'un certain nombre de résolutions contre Israël. Ne serait-il pas temps de chercher alors de nouveaux alliés diplomatiques? Écoutez la réponse d'Emmanuel Nachshon, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien.
La question n'est pas seulement si Israël cherche des alliés, mais c'est plutôt une affirmation, Israël a des alliés. Alors que ça soit en Afrique, que ça soit la Turquie, que ça soit l'Inde ou la Chine et d'autres pays encore. En parallèle de ces relations avec les États de l'Afrique de l'Est, nous avons aussi d'excellentes relations avec les États de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous espérons obtenir, en fait, c'est une situation qui soit équitable et amicale. C'est-à-dire cesser cette logique qui veut que les pays non alignés ou que les pays musulmans ou arabes votent automatiquement contre Israël. Parce que ce que nous avons vu, c'est une situation qui est incroyable et qui est inacceptable. On voit ça par exemple avec la Commission des droits de l'homme à Genève, qui est littéralement otage des pays arabes et des pays musulmans, et donc qui vote en permanence et de manière systématique des résolutions contre Israël. C'est quelque chose qui est inacceptable et je crois qu'il ne reflète absolument pas les besoins et les nécessités de la communauté internationale.
Voilà, de bonnes relations pour des votes favorables à l'ONU, donc reste maintenant à rétablir les relations avec les 8 pays d'Afrique, du Sahara et du Maghreb qui avaient fait pression pour l'exclusion de l'Union africaine d'Israël en 2004. Et pour commencer, justement, l'Union africaine, Israël y retrouvera un poste d'observateur.
Et pour finir, on revient en Europe en passant par la Hongrie, ou pas. C'est justement tout l'enjeu après l'annonce d'un référendum sur les quotas de migrants, et ce sera le 2 octobre.
Oui, un référendum déjà annoncé en février. Maintenant, la date de cette consultation sur les quotas, fixée, je le rappelle, par un accord européen, est connu. Il reste maintenant à en dégager les enjeux. Alors, sur le plan européen, la Hongrie de Viktor Orban a perdu avec le Royaume-Uni son meilleur allié, on pourrait dire, pour le rétablissement d'une Europe des frontières. Alors, s'agit-il d'une pression réelle qui va s'exercer sur l'Union européenne pour préparer le terrain à un éventuel Huxit, comme on dit? Un seul des membres du Fidesz, le parti au pouvoir, chef de cabinet de Viktor Orban, s'est prononcé personnellement en faveur d'une séparation. Alors, bien sûr, Viktor Orban est un grand opposant aux quotas de migrants, mais c'est essentiellement une question de politique intérieure. C'est ce qu'affirme András Bironádi. Lui, c'est le directeur du think tank budapestois Policy Solutions.
La crise des réfugiés en 2015 a été la clé du succès du Fidesz dans sa course à l'électorat. Le discours a très bien pris sur la population hongroise. Or, cette année 2016, la question des réfugiés avait un peu disparu du débat hongrois. Et elle a été moins intense en Europe que l'année précédente. Mais maintenant, Viktor Orban fait tout ce qu'il peut pour la remettre à l'ordre du jour. J'ajoute que ça lui permet aussi de ne pas avoir à parler des affaires de corruption au sein du gouvernement, ni de l'état déplorable des services éducatifs ou de santé en Hongrie, de la pauvreté et des inégalités qui augmentent. Tant qu'il parle de la crise des réfugiés, il est inatteignable. Donc, la leçon de ces un an et demi de politique hongroise, c'est que le Fidesz a volé son programme politique au Jobbik d'extrême droite, et ça lui permet de rester populaire. Mais j'ajouterai une dernière chose. Pour moi, le plus grand problème de ce référendum, c'est sa validité. Parce qu'on voit déjà que la plupart des partis de gauche et libéraux ont demandé à leurs électeurs de rester chez eux. Donc la grande question est de savoir si l'on atteindra les 60% de participation nécessaire. Et de mon point de vue, rien n'est moins sûr.
Rien n'est moins sûr. À suivre donc le 2 octobre, ce sera aussi le jour de l'élection présidentielle en Autriche.
Merci beaucoup Xavier Martinet, vous restez avec nous bien sûr. Et la tension reste vive aux États-Unis. Troisième jour de manifestation dans tout le pays après le décès de 2 Noirs américains cette semaine, puis celui de 5 policiers dans une fusillade à Dallas. La question des tensions raciales, mais aussi des violences policières, revient en force. Sophie Baudet-Gendreau, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 4 et membre du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Alors ce matin, Barack Obama a exhorté les Américains à ne pas céder aux divisions, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ?
De toute façon, ce pays a été fondé sur une histoire de race, hein, faut pas l'oublier. Donc en fait, il y a toujours eu cette tension raciale et la police incarnant l'ordre et certainement perçu par les uns et par les autres comme un facteur de division. Trop tard, non, parce que je crois que Obama est dans son rôle, de même que la ministre de la Justice, lorsqu'il, par la rhétorique, ils exhortent les Américains à rester rassemblés. Mais il est vrai que là, on est vraiment dans une grande fracture. Si on regarde, par exemple, les opinions, il y avait un sondage du Washington Post il y a quelque temps qui disait que seul un noir sur 10 disait que la justice traiter équitablement les minorités, et 2 noirs sur 10 seulement disaient la même chose pour la police, alors que 60% des blancs disaient le contraire. Ils n'avaient pas l'impression que les minorités étaient traitées différemment. Donc on voit que déjà là, il n'y a pas du tout les mêmes perceptions des institutions.
Vous avez parlé de fracture. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la police américaine n'est pas perçue comme la police de tous les Américains ?
Elle est vu avec beaucoup de suspicion par les Noirs, qui sont quand même les plus l'objet de ces fameux tirs mortels qu'on évalue à 1000 par an, si on en croit justement des sondages sérieux, dont un très grand nombre visant les jeunes Noirs. Un jeune Noir a 21 fois plus d'occasions d'être tiré, de recevoir des tirs policiers qu'un jeune blanc du même âge. Donc, il est normal qu'il ne fasse pas confiance à la police. Surtout que, quand on dit police, il faut déconstruire ce mot. C'est une police qui souvent n'a pas de diplôme, surtout quand elle travaille dans les quartiers pauvres, et qui a reçu un entraînement qui lui dit à cette police de tirer dès qu'elle se sent en danger. En disant, il faut plus d'une seconde pour dégainer votre arme, alors que pour un opposant, il faut une demi-seconde pour vous viser et tourner le dos. Donc voilà, avec ce genre évidemment de formation, qui est locale évidemment, on comprend qu'il y a fort à faire. Il y a 18 000 agences de police dans le pays. 50% d'entre elles ne reçoivent aucun fonds fédéral. Ça veut dire que là, on peut même pas faire pression pour que la formation soit revue, puisque le gouvernement fédéral ne peut pas intervenir. Il n'intervient que quand il y a d'énormes bavures comme à Ferguson.
Vous voulez dire que le nœud du problème est finalement dans le fonctionnement de ces institutions, la formation notamment, vous l'avez dit, oui. Et peut-être moins sur une question raciale latente aux États-Unis ?
Ben si, il y a quand même beaucoup à faire. Pourquoi est-ce que si le tireur, dans le cas de Dallas, avait été blanc, on aurait dit qu'il était dérangé, qu'il était mentalement perturbé, et que si c'est un noir qui tire, on commence à chercher son passé militant, ses affiliations, etc. On voit tout de suite, déjà, qu'il y a une différence d'attitude. Une sorte d'excuse donnée tout de suite aux tireurs blancs, c'était le cas à Charleston, mais c'est pas le cas ici, où on commence à faire une enquête approfondie dans le passé. On voit bien que les opinions sont quand même très différentes.
Dernière question, Sophie Baudy-Gendreau. L'émergence du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte en français, qui revendique l'héritage du mouvement des droits civiques, mais aussi des Black Panthers. Est-ce que ce mouvement peut permettre peut-être de rouvrir le débat sur la question raciale dans la société américaine ?
En tout cas, il est important, de même que le mouvement d'Al Sharpton à New York, parce qu'il maintient une vigilance. Il maintient une pression pour que les institutions ne se contentent pas d'agir avec impunité. Donc, chaque fois qu'il y a une bavure et que Black Lives Matter, à travers les réseaux sociaux, agite l'opinion, en particulier dans les villes américaines, c'est, disons, une fonction démocratique. Il faut absolument aider les institutions à mieux travailler. Et ces associations-là, c'est à ça qu'elles servent.
Alexandra de Hoopscheffer, une réaction peut-être sur cette nouvelle tragédie qui a marqué la semaine aux États-Unis.
C'est une nouvelle tragédie, mais qui s'inscrit dans une longue séquence de tragédies. Donc je dirais qu'on est là face à un véritable problème, je dirais, structurel de la société américaine, qui est vraiment très grave. Tout comme la question du port d'armes est un vrai problème aussi structurel pour la société américaine. Alors le président Barack Obama essaie essaye de faire un, je dirais, un délicat exercice d'équilibrisme entre son rôle de président et puis en même temps lui-même est le premier président noir des États-Unis. Vous vous souvenez de sa campagne de 2008 et ses premiers discours où il avait fait sa campagne sur le thème de l'Amérique post-raciale, justement pour se situer au-dessus de la question des races et ne pas être le président d'une communauté, mais le président de tous les Américains. Mais en même temps, on l'a bien vu à Varsovie depuis le sommet de l'OTAN, il a bien dû exprimer sa colère face aux bavures répétitives de la police américaine à l'encontre de la communauté afro-américaine et de l'autre côté, reconnaître ce qu'il appelle la difficile mission de la police américaine. Mais on voit que tout ça, c'est très délicat. On voit qu'une fois de plus, après les attentats qui ont touché les États-Unis, c'est un épisode qui interrompt aussi la campagne présidentielle américaine. Hillary Clinton, Donald Trump ont annulé les différents déplacements qu'ils étaient censés faire. Et là, ils vont devoir également se prononcer sur la question. Et à mon avis, ces deux sujets sociétaux qui profondément sont des vrais sujets, je dirais, d'ordre structurel à la société américaine, doivent véritablement être traités par les prochains présidents. Mais on voit que les blocages sont partout, aussi bien au sein du Congrès américain que dans les lobbies. Notamment quand il s'agit du port d'armes.
Bien, merci pour cet éclairage. Merci Sophie Baudy-Gendreau. Je rappelle qu'on pourra vous entendre plus longuement sur toutes ces questions demain dans la matinale de France Culture où vous serez l'invité d'Olivia Gesbert. Merci beaucoup.
Une semaine dans le monde. Mélanie Chalandon.
Alors c'était probablement sa dernière visite en Europe en tant que président des États-Unis. Barack Obama participait au sommet de l'OTAN vendredi et samedi à Varsovie, un sommet particulier quelques semaines après la décision historique des Britanniques de quitter l'Union européenne. En avril dernier, le président Obama, toujours prêt à partager sa vision et ses valeurs avec le reste du monde, avait plaidé contre le Brexit. Parce qu'une Europe unie reste l'espoir de beaucoup et une nécessité pour tous, avait-il déclaré à Hanovre, en Allemagne. Gageons qu'une fois de plus, les Européens auront réussi à le décevoir par leurs incessantes divisions. L'histoire avait pourtant bien commencé. Souvenez-vous, en 2008, à peine le nouveau président élu, une vague d'Obamania déferlait sur toute l'Europe, des opinions publiques jusqu'aux dirigeants. Immense soulagement après les deux mandats de Bush Junior, espoir d'un nouvel élan pour les relations transatlantiques et surtout d'une confiance restaurée après la traumatique intervention en Irak. 8 ans après, les Européens ont dû se rendre à l'évidence. L'horizon pour Barack Obama se trouve bien plus à l'est, en Asie. Agacement et désintérêt auront davantage marqué ses relations avec l'Union européenne. Une désillusion pour le vieux continent qui voyait pourtant en lui l'homme providentiel. Alors Obama et l'Europe, un rendez-vous manqué, on en discute jusqu'à 13h30 avec Alexandra de Hoopschefer. Je rappelle, donc politologue, directrice du think tank transatlantique The German Marshall Fund of the United States, spécialiste de la politique étrangère américaine et co-rédactrice en chef de la revue politique américaine. Et avec vous, Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po aux séries et membre du conseil scientifique de la Fondation Robert Schuman. Christian Lequen, s'il fallait qualifier la nature des relations transatlantiques, est-ce que finalement c'est avant tout un partenariat historique, sous-entendu, qui appartient au passé?
Non, je ne crois pas qu'il faille dire cela. Ce serait un peu extrême, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a toujours eu un paradoxe dans la relation entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que, d'un côté, on est des partenaires parce qu'on partage des valeurs. On a eu besoin en Europe de la protection américaine et peut-être qu'on a encore besoin aujourd'hui d'ailleurs. C'est un thème qu'on évoquera. Et en même temps, on a été concurrents et on est concurrents sur le plan économique notamment. Je pense que pour ce qui est d'Obama en particulier, c'est vrai qu'il y avait énormément d'espoir en 2008 parce qu'on arrivait juste après la période Bush, qui avait été une période de grande tension entre l'Europe et les États-Unis, au moins une partie de l'Europe. On se rappelle tous de 2003, la division sur faut-il aller en Irak ou pas. Et là, pas mal d'Européens se sont dit ça y est, c'est à nouveau le président pro-européen qui arrive, etc. En plus, il plaisait bien aux Européens parce qu'il représentait ce que les Européens étaient peut-être incapables, d'élire dans leur propre pays, c'est-à-dire un président représentant une minorité qui a été persécutée, etc. Et je crois que l'attente de Bush, c'était une attente très fonctionnelle. C'est-à-dire que dans la liste des problèmes qu'il avait à régler, l'Europe, c'était pas du tout en haut. Et il se disait, voilà, j'ai un allié, je vais pouvoir l'utiliser, sauf pas de chance. 2008, c'est juste au moment où l'Europe commence à se diviser à peu près sur tout. C'est-à-dire, c'est le début de la crise économique
la crise
et la succession des crises. Donc, je crois qu'il est, dans le fond, il est un peu déçu, parce que il s'attendait un peu avec son mode consultant à ce que l'Europe puisse lui rendre bien des services, voilà. Et puis, c'est pas si simple que ça, voilà.
Alexandra Dobscheffer, une déception du coup partagée, si on en croit ce que dit Christian Le Cann, et de la part de Barack Obama, et surtout de la part des Européens.
Je pense que c'est une déception partagée, mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire Christian Le Cann, qui est fondée sur une incompréhension peut-être dès le départ hein, par rapport à la personnalité de Barack Obama. D'abord, c'est un président américain qui effectivement parle le langage européen. Quand vous l'écoutez, quand il projette sa politique étrangère conceptuellement, il utilise notre langage, alors que Bush était vraiment le style cowboy, l'unilatéralisme américain, la crise irakienne de 2003 qui a profondément divisé la communauté transatlantique. Mais Obama, c'est tout le contraire. C'était le multilatéralisme, c'était une approche plus prudente de l'usage de la force militaire. C'est quelqu'un qui a profondément aussi changé les mentalités américaines sur des questions qui étaient impensables il y a encore quelques années, le changement climatique. Sur toutes ces questions-là, on a travaillé, Américains et Européens, de manière très rapprochée. Mais Barack Obama n'a pas de racines européennes. C'est quelqu'un qui est tourné vers le Pacifique. D'ailleurs, son ancienne secrétaire d'État est maintenant candidate à la présidentielle, Hillary Clinton. C'est véritablement elle qui a été l'architecte intellectuel de ce fameux pivot vers l'Asie. Donc, effectivement, le premier mandat d'Obama, je dirais, a assez mal démarré en matière de relations transatlantiques. Il a donné l'impression de pivoter vers l'Asie, qui était un mot très regrettable, et du coup, de négliger l'Europe et le Moyen-Orient. Mais effectivement, avec la succession de crises qui a touché l'Union européenne, la crise économique de 2008, hein, qui n'est pas du tout terminée aujourd'hui d'ailleurs, les printemps arabes de 2011, le terrorisme, maintenant la crise des réfugiés, vous rajoutez à cela le Brexit, tout d'un coup l'Union européenne est redevenue en fait un sujet de profonde inquiétude pour les Américains. Et c'est là où vous voyez du coup un réengagement, un repivotage,
je peux dire, est-ce que vous datez
partiel des États-Unis vers l'Europe.
De quand est-ce que vous datez ce réengagement à peu près ?
Moi, je dirais véritablement, alors d'un point de vue militaire, je dirais depuis l'épisode de l'annexion de la Crimée par la Russie, on le voit très clairement, avec cette volonté, c'est la première fois d'ailleurs depuis la fin de la guerre froide que les Américains réaugmentent leur présence militaire en Europe. Donc c'est quand même pour eux très engageant. Ils sont extrêmement impliqués dans tous les exercices militaires dans les États baltes, en Pologne. Ils annoncent maintenant que le bouclier antimissile est enfin opérationnel. Donc tout ça fait qu'ils se réinstallent partiellement militairement en Europe. Donc je dirais que l'épisode de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a été un tournant. Et puis on coopère encore plus sur les questions de lutte contre le terrorisme lorsque l'on parle du flanc sud.
Alors avant de revenir sur les enjeux et ce qui a été annoncé hein, durant ce sommet de l'OTAN pendant ces deux derniers jours, Christian Le Cann peut-être rappeler qu'en 2008, ce n'était peut-être pas toute l'Europe qui était enthousiaste à l'arrivée de Barack Obama à la présidence des États-Unis.
Absolument.
À l'Est et en Europe centrale, on était un petit peu plus circonspect, un petit peu plus... Les attentes étaient peut-être moins fortes, on va dire.
Oui, les sondages à l'époque le montraient bien. Hein. Ce qu'on appelait l'Obamania, c'est avant tout une perception ouest-européenne. Quand on regardait les sondages de popularité d'Obama en République tchèque ou en Pologne ou dans les pays baltes, c'était assez différent parce que ce que les centres européens et les baltes aimaient chez Bush, c'était justement la garantie de l'engagement militaire. Et aujourd'hui, on voit bien que la question est en train de revenir, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande polonaise, une vraie demande lituanienne, une vraie demande lettonne pour qu'il y ait une présence militaire américaine, précisément parce qu'on n'a pas confiance dans Poutine, et parce qu'on considère que l'Europe de la défense n'est pas suffisamment puissante aujourd'hui pour garantir un éventuel problème avec la Russie. Et d'ailleurs, ça s'est traduit au sommet de l'OTAN par un engagement très très concret. Il va y avoir une force multinationale dans les pays que j'ai cités, c'est-à-dire en Pologne, dans les pays baltes, mais qui sera composé essentiellement d'Allemands, de Britanniques, de Canadiens et d'Américains.
Je vous dirais juste que les pays de l'Est avaient raison dans les inquiétudes qu'ils exprimaient il y a 8 ans.
Là où ils avaient raison, c'est que l'Europe de la défense n'a pas fait beaucoup de pas en avant. Et je pense qu'il y a eu une période, lorsque la plateforme civique était au pouvoir en Pologne, où les Polonais ont cru justement qu'il fallait jouer aussi la carte du renforcement de la politique européenne de défense. Ça avait été une des priorités de la présidence polonaise d'ailleurs à l'époque. Et puis on s'est rendu compte qu'avec avec la crise, et bien sûr maintenant aussi avec le désengagement britannique, parce que veut dire une Europe de la défense si l'une des deux puissances qui bénéficie véritablement de ressources militaires quitte l'Union européenne. Donc tout ça légitime beaucoup l'OTAN, mais dans l'imaginaire centre européen ou balte, l'OTAN ça veut dire d'abord les États-Unis.
Une question de Xavier Martinet.
Oui, pour quitter juste une seconde l'Union européenne, Alexandra de Hupschefer, vous évoquiez ce réengagement des États-Unis à partir de 2014. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'épisode de 2013 qui concernait la Syrie, où en 2012, Barack Obama avait dit que la ligne rouge, c'était l'utilisation des armes chimiques. Donc on sait que la France s'était préparée à frapper la Syrie. Apparemment, les États-Unis étaient d'accord aussi. Puis en quelques heures, tout s'est joué et déjoué. Finalement, Barack Obama a dit qu'il ne ferait rien sans l'aval du Congrès. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un jeu de dupes ou alors une réelle difficulté?
Alors, un des facteurs déterminants dans la décision d'Obama de ne pas suivre en août 2013, c'est aussi le nom du Parlement britannique, justement. Oui. Voilà. Et une fois que le Parlement britannique a dit non, on n'autorise pas notre gouvernement à intervenir en Syrie, les États-Unis se sont dit, on a perdu notre allié le plus spécial, la relation spéciale, le plus proche lorsqu'on parle de coopération militaire. Et ils se sont dit sur ce plan-là, on va peut-être pas aller plus loin que ça. Et puis, il a eu des conversations, on le lit d'ailleurs dans son interview du Atlantic Council qu'a fait Jeffrey Goldberg, qui est un interview fleuve, et il revient véritablement sur cet épisode justement de la ligne rouge en 2013. Et il s'est dit, pour la première fois, moi en tant que président américain, je vais ne pas suivre ce qu'il appelle la ligne classique de politique étrangère américaine, qui est de dire, voilà, il faut tout de suite déployer la force militaire pour réagir à une situation sur le terrain. Je vais prendre un pas en arrière, réfléchir et puis peser toutes les options. Et lui réfléchit vraiment en termes de, est-ce que si j'utilise l'arme militaire, est-ce que les conséquences de cette action vont être plus positives ou plus négatives que si je ne l'avais pas utilisée. Donc après, effectivement, pour moi, cet épisode-là d'août 2013 où Barack Obama n'a pas suivi cette ligne rouge qu'il a posée lui-même, même s'il dit que c'est la communauté international qu'il a fixé, mais c'est bien lui, a véritablement endommagé la crédibilité de la puissance américaine sur la scène internationale. Et alors, à Washington, ils détestent quand on leur dit « Est-ce que vous ne pensez pas que ça a encouragé le président Poutine ?» justement à annexer la Crimée. Ils détestent quand on fait ces liens, mais les liens sont bien là, puisqu'on les voit d'un point de vue conjoncturel. Lorsque l'on voit qu'un président américain, soi-disant le président le plus puissant au monde, en tout cas qui a la voix qui pèse le plus sur la scène internationale, qui ne suit pas cette ligne rouge, ça encourage d'autres acteurs, effectivement, à peut-être adopter une attitude un peu plus agressive, en tout cas dans leur voisinage. Et on l'a vu notamment également en Asie, avec la Chine qui accélère ses démarches dans la mer de Chine, mais vous le voyez aussi en Russie. Donc tout ça envoie des signaux, je dirais, qui fait que les rivaux des États-Unis et de l'Europe vont pouvoir exploiter en fait ces revirements qui pour moi ne sont pas négligeables.
Lors du sommet de l'OTAN, il a été décidé le déploiement de 4 bataillons dans les pays baltes et en Pologne, 4000 hommes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe est dépendante des États-Unis pour sa sécurité, Christian Lequen?
C'est difficile de répondre dans l'absolu. Ça dépend du type d'attaque, ça dépend du type de menace. Mais ce qui est important, c'est que pour ce qui est de la dimension psychologique de la sécurité, dans la sécurité, il y a une dimension confiance, il y a une dimension psychologique. Les pays d'Europe centrale et les pays baltes considèrent que la présence américaine aujourd'hui assure plus de crédibilité. Voilà, donc c'est cela le point important, c'est-à-dire que il n'y a pas du tout eu dans la conception, dans la représentation qu'on a de la sécurité dans ces pays, de substitution de l'Europe aux États-Unis. Les États-Unis restent complètement un élément de la sécurité, et c'est intéressant parce que ça nous renvoie complètement aux négociations d'adhésion des années 90 où on disait les centres européens et les baltes ils veulent bien entrer dans l'Union européenne pour l'économique, pour l'état de droit, mais pas pour la sécurité. Alors après, si on avait une vision un peu optimiste, on disait oui, mais tout ça va évoluer parce qu'il y aura une Europe de la défense. On se rappelait des négociations, notamment franco-britanniques, l'accord de Saint-Malo 1998. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on en est toujours à la même représentation qu'au début des années 90. Sécurité égale États-Unis.
Voilà. Vous étiez justement au sommet de l'OTAN ces deux derniers jours, Alexandra de Hoopscheffer. Est-ce que vous avez eu l'impression que les pays d'Europe de l'Est ont obtenu les gages de sécurité de la part des Américains suffisants pour répondre à leurs inquiétudes?
Je pense que oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la permanence ou pas des forces américaines sur le flanc Est, en Pologne notamment, et dans les États baltes. Et finalement, cette discussion s'est très vite arrêtée quand la décision a été prise de déployer ces 4 bataillons multinationaux en Pologne, dans les États baltes. Et puis également, à partir du début de l'année prochaine, les Américains, le Pentagone, a pris la décision de déployer également une brigade blindée. Donc en Europe de l'Est et dans les États baltes, donc qui se fera de manière rotationnelle, mais ça représente quand même une force d'environ 5000 militaires américains supplémentaires. Donc je pense que tous ces signes-là, plus l'opérationnabilité maintenant du bouclier antimissile, plus les exercices militaires qui se sont accélérés, tout ça fait que je pense, et j'ai pu le constater sur place, les États les responsables d'Europe de l'Est et des États baltes sont quand même très satisfaits des résultats, tout en gardant aussi une certaine nuance quant à la posture vis-à-vis de la Russie. En lisant, effectivement, moi c'est vraiment la chose que je retiens en fait de ce sommet de l'OTAN. Quand on lit la déclaration finale, on voit qu'il y a une espèce de consensus qui a été trouvé entre les États, justement polonais, États baltes, qui voulaient une posture sans doute plus agressive vis-à-vis de la Russie, et nous en France, Allemagne, Italie et autres, qui étaient plutôt dans la modération. On voit que finalement dans la déclaration finale, c'est très important, il est textuellement dit que on n'est plus dans une période de guerre froide et que le dialogue avec la Russie est importante, que la Russie n'est pas notre ennemi principal et qu'il faut rester dans, un équilibre, fermeté et dialogue.
Qui est aussi la posture américaine. Barack Obama n'entend pas revenir à une époque de la guerre froide.
Non, même si vous avez quand même des voix au sein de son administration qui parlent toujours en termes de guerre froide, c'était assez présent, ça m'a beaucoup surprise à Varsovie. Il y en a encore qui vraiment réfléchissent en termes de guerre d'analyse en termes de guerre froide, mais je pense que une fois cette génération mise de côté, on passera enfin à un autre type de langage.
Xavier Martinet.
Et en tout cas, en ce qui concerne l'OTAN et la Russie, je crois que c'est la semaine prochaine que doivent se continuer des discussions. Justement, il y a un groupe de travail OTAN-Russie qui doit continuer à discuter, à arrondir les angles. Simplement, peut-être une question à vous deux, Christian Lequen et Alexandra de Hoopscheffer, sur l'installation du bouclier antimissile. Vous disiez il est terminé, il est installé sur la marge sud de l'Europe, si j'ai bien compris.
En Roumanie.
En Roumanie, il y a l'Espagne pour les bateaux et puis la Turquie également pour les radars. Pourquoi si bas, justement, c'était des objectifs stratégiques? C'était lié à la Russie qui s'effrayait de voir ses missiles trop près?
Je crois que la raison d'être de ce bouclier antimissile, c'est avant tout des menaces qui viendraient du Sud, qui viendraient du Moyen-Orient. Et toute la difficulté, justement, c'est d'éviter que Poutine, lui, instrumentalise l'installation en disant « c'est tourné directement contre nous ». Mais ça, on ne pourra pas l'éviter. Il y a eu des déploiements aussi russes d'un certain nombre de matériel dans l'enclave de Kaliningrad comme réponse. Là, c'est dans le fond ce qui ressemble encore un peu à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire c'est la symbolique, parce que Poutine en a besoin aussi, parce qu'il l'exploite bien sûr par rapport à son opinion publique, quand on est un président comme Poutine, dire que les Occidentaux veulent encore la guerre froide, ça peut servir, mais dans le fond, je crois que tout le monde a compris que ça n'était pas la Russie qui était visée en premier lieu.
Et du côté européen, la Roumanie, par exemple, a expressément demandé à avoir des installations sur son sol, ou ça s'est passé différemment ?
Ça, Alexandra a peut-être plus d'informations que moi là-dessus.
Je pense que pour la Roumanie, c'était effectivement important d'avoir ces intercepteurs sur son territoire. Ça fait partie, comme l'a rappelé Christian Lequen, comme un signe de réassurance, comme on dit maintenant, c'est rentré dans le langage vocabulaire français également. Mais d'avoir ces intercepteurs sur le territoire roumain, c'est aussi une manière d'être rassuré par cet équipement sur le territoire roumain. Donc oui, effectivement. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, notamment ici en France, où, comme vous savez, on n'est pas particulièrement heureux de ce bouclier anti-missile depuis le début des préparations. C'est un peu délicat, puisqu'on, comme vous le savez, on a signé cet accord nucléaire avec l'Iran. Les États-Unis continuent à dire que c'est contre une éventuelle attaque de l'Iran. Donc, il y a une espèce de flottement, une espèce d'ambiguïté. C'est pas tourné contre la Russie. Vous ajoutez à cela également le bouclier antimissile qui est maintenant aussi opérationnel en Corée du Sud. On dit que c'est pas pour contenir la Chine, mais on entretient l'ambiguïté. Donc tout ça fait que cette ambiguïté sur l'objectif stratégique de ces deux boucliers antimissiles, forcément, vous allez assister à des réactions. Des pays qui se sentent visés en premier lieu, la Chine en Asie et puis la Russie sur le front Est, c'est évident.
Barack Obama a aussi exhorté les Européens pendant ce sommet à ne pas se reposer sur les États-Unis pour assurer leur propre défense. Il a aussi engagé les pays membres à tenir leurs engagements en matière de contribution à l'OTAN. Est-ce que l'Europe est perçue comme un fardeau pour les États-Unis? Je vous pose la question parce que c'est aussi ce qui revient dans la campagne électorale. Trump parle de fardeau pour l'Europe.
Les Américains souhaiteraient davantage partager ce fardeau. C'est le fameux débat du burden sharing qui est très ennuyeux pour ceux qui ont été dans ces discussions transatlantiques depuis des décennies, qui continue à être véritablement un problème pour les Américains. On le voit, la Libye a été très représentative pour moi de ce que les Américains souhaiteraient en termes justement de partage du fardeau militaire. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient voir les Européens ou quelques pays européens capables et volontaires d'un point de vue militaire. Donc en Libye, en 2011, c'était la France et le Royaume-Uni ensemble, soutenus par les Américains. Mais encore une fois, on a vu effectivement que les capacités militaires américaines restaient absolument indispensables. Au Mali, dans le Sahel, la France a l'initiative, mais là aussi soutenue logistiquement, capacitairement par les États-Unis. Donc c'est ce type, en fait, je dirais, de partenariat transatlantique que les Américains aimeraient voir davantage. Mais bien sûr que cela nécessite que les pays européens continuent à investir dans leurs équipements militaires, dans leurs industries de défense et également dans leurs futures élites militaires. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que peut-être depuis le sommet du Pays de Galles de 2014, une des mesures qui avait été prise, c'était que les pays européens, en tout cas, cessent de réduire leur budget de défense, qui est chose faite. On voit une stabilisation dans au moins 23, je crois que c'est 23 pays sur 28 de l'Alliance, ou en tout cas arrêté de réduire leur budget de défense. C'est déjà quelque chose. Mais après, il faut aussi que, je dirais, d'un point de vue mentalité, que les choses évolue. Aujourd'hui, on a la France qui est le seul pays dans l'Union européenne qui véritablement
depuis le départ
depuis voilà
de la Grande-Bretagne,
exactement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, elle est le seul pays aujourd'hui qui a la capacité et surtout qui a la volonté de projeter sa puissance militaire en dehors de l'Union européenne, et c'est pour ça que l'OTAN...
Est-ce que ça va changer ça dans les relations transatlantiques,
le fait que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne? D'abord ça va peut-être indirectement redonner de l'importance à encore plus à l'OTAN en tant qu'organisation qui va assurer et être pourvoyeuse de sécurité en Europe, ça c'est certain. Mais, et ça aussi, ça a été un résultat de ce sommet de l'OTAN très intéressant, ça va peut-être aussi obliger l'OTAN et l'Union européenne à coopérer davantage ensemble sur les questions de sécurité et de défense. Et là, vous avez véritablement une déclaration qui, pour moi, quand même, est un tournant en matière de coopération vis-à-vis de la Russie, sur les questions maritimes, sur les questions de cyber. On va devoir travailler davantage ensemble, d'autant plus que maintenant, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne.
Christian Le Ken, le Brexit va permettre de redonner du sens et de l'importance à l'OTAN?
Je pense que, en tout cas, sur les questions de sécurité, clairement, le Brexit entame encore un peu plus la possibilité de faire une Europe de la défense. Donc, logiquement et par conséquent, c'est vrai que c'est plutôt du côté de l'OTAN que les choses devront se consolider. Mais ceci nécessite, comme l'a très bien dit Alexandra de Hobbs-Kepper, qu'un certain nombre de membres européens de l'OTAN fassent des efforts aussi sur leur contribution. Et je pense que pour les Américains, la question de la contribution allemande aussi est un point très important, puisque en raison de l'histoire, les Allemands n'ont pas de vraie volonté de se projeter militairement. Ils ont un pourcentage consacré aux dépenses de défense qui est assez faible, ce qui ne les empêche pas de vendre beaucoup d'armes d'ailleurs dans le monde. C'est des grands pourvoyeurs d'armes, comme les Français et les Britanniques. Mais bon, cette année, pour la première fois, la Bundeswehr va augmenter légèrement son budget, c'est-à-dire l'armée allemande. Mais il faudrait qu'il y ait un engagement du point de vue américain. S'il y avait un engagement militaire allemand supérieur, ça serait très bien vu. Donc je partage ce qui a été dit sur le fait que, dans le fond, le grand allié actuellement militaire des États-Unis, c'est la France. Et là, c'est très intéressant, parce que d'un côté, vous avez cette rhétorique française qui consiste toujours à dire, vous savez, on veut être indépendant des Américains, etc. D'ailleurs, le président de la République a fait une petite déclaration au sommet de l'OTAN, puisque Obama avait dit oui, ça serait bien que vous ne vous querellez pas trop, etc. Lui a répondu, j'ai pas trop de leçons à recevoir. Enfin bon, ça, d'un point de vue français, ça marche toujours très très bien. Mais quand vous regardez la réalité de la coopération Mali, Iran-Irak, Syrie, etc., c'est quand même du côté français qui a le plus grand appui. Voilà. Et je ne dirais pas qu'il y a dans les politiques publiques, dans les politiques militaires, un vrai anti-américanisme français actuellement. C'est exactement le contraire.
Une Europe unie reste l'espoir de beaucoup et une nécessité pour tous. C'est ce qu'a dit Barack Obama en avril à Hanovre, en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un paradoxe dans cette volonté affichée de consolider l'unité européenne et puis en même temps une Europe unie et forte? On n'est pas sûr que les Américains en veuillent vraiment et pourrait risquer de faire de l'ombre au leadership américain dans le reste du monde. Alexandra Dobbs-Kepper.
Je pense que cette ambiguïté a quand même été légèrement atténuée ces dernières années, d'autant plus que les Américains se trouvent eux aussi de plus en plus limités dans leur capacité aussi à la fois militaire, économique, stratégique. Donc ils ont besoin encore plus du partenariat transatlantique. Ils ont encore plus besoin de nous, Européens. Alors c'est vrai que si on arrive à être plus unis, plus soudés, je pense que ça leur conviendrait mieux. Après, dans ce document de la stratégie globale de l'Union européenne qui a été promue par Federica Mogherini quelques jours avant le sommet de l'OTAN, où la formule la plus utilisée, c'est l'autonomie stratégique de l'Union européenne, ça c'est typiquement le genre de formules et de choses que, avec lesquelles les Américains sont toujours pas à l'aise. Ils estiment que l'OTAN est la principale organisation de sécurité en Europe et que de mettre en place un centre de commandement civilo-militaire à Bruxelles pour l'Union européenne, ce serait dupliquer les capacités de l'OTAN qui existe déjà. J'ai encore eu droit à ce discours au sommet de Varsovie qui m'a un peu surprise parce que je pensais que justement du côté américain on était vraiment allé au-delà de ce discours-là, que justement plus l'Europe aurait la capacité à se montrer unie et capable notamment en matière de sécurité et défense et plus les Américains seraient contents. Mais effectivement, vous avez raison de souligner cette ambiguïté reste encore un peu et certes moins forte qu'il y a quelques années à l'époque de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright qui disait qu'il fallait pas dupliquer l'OTAN, mais ça existe toujours. Voilà. Donc après, moi, ce que j'imagine comme l'avenir du partenariat transatlantique, notamment quand il s'agit de questions de sécurité et de défense, c'est un petit peu le modèle libyen de 2011, c'est-à-dire un modèle assez souple. Vous aurez quelques pays européens qui prendront le lead, ou alors les États-Unis qui prendront le lead, comme dans la coalition anti-Daesh Irak-Syrie, avec de manière ad hoc, d'autres pays qui viendront se greffer pour soutenir ce partenariat.
C'est le fameux lead from behind,
oui.
Prendre le leadership, mais depuis des bases arrières, quelque
voilà.
part.
Voilà, et pour boucler la boucle avec votre première question que vous avez posée, est-ce que c'est un partenariat historique du passé ? Je dirais... partiellement, parce que le partenariat transatlantique, on le voit sur un nombre assez significatif de dossiers de politique étrangère, ne suffit pas aujourd'hui. On voit que très souvent, la résolution ou la solution aux crises d'aujourd'hui ne dépend ni des États-Unis ni de l'Union européenne, mais d'autres pays avec lesquels il est beaucoup plus compliqué de travailler. La Russie, c'est pas seulement l'Ukraine, c'est aussi la lutte contre Daesh. La Turquie. Qui est un membre allié de l'OTAN, mais qui n'est pas non plus un allié facile. Donc c'est avec ce type en fait de partenaire pas facile à gérer qu'il va falloir travailler encore plus. Donc le partenariat transatlantique ne suffit plus aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut intégrer.
Christian Lequen.
Oui, moi je crois que je disais tout à l'heure, ça a pu sembler un peu dur, que il y avait parfois une approche un peu consultant chez Barack Obama, ce qui fait beaucoup rire Alexandra. Mais je crois que c'est pas faux, c'est-à-dire qu'il a une liste de problèmes et au-dessus de la liste, si vous voulez, il y a Pakistan, Moyen-Orient et l'Europe, c'est tout en bas. Et donc son rêve, c'est qu'il y ait zéro problème avec les Européens. Que ces Européens soient unis, mais ça je ne crois pas du tout au fait qu'ils entretiennent l'idée de relations spéciales avec tel pays ou tel autre. C'est très intéressant.
C'est surtout
parce
pour
que,
faire plaisir aux Britanniques, vous voulez
oui,
dire
oui, mais les Britanniques, eux fantasment un peu là-dessus, notamment les conservateurs britanniques. Mais lui, il préfère une Europe unie parce que précisément il est dans cette approche fonctionnelle. Sauf que ce qui l'agace, c'est que cette Europe, elle n'est pas si unie que cela. Et du côté européen... ce que l'on veut, c'est pas simplement être à disposition quand il le faut, mais on veut aussi partager la décision. Et ça, c'est un point sur lequel les Américains et Obama, mais tous les présidents doivent réfléchir. C'est-à-dire que burden sharing, ça veut dire partager les ressources, mais dans ce cas-là, il faut aussi partager la décision. Et ça devient très très difficile parce qu'un président américain, que ce soit Obama ou n'importe qui, défendra toujours en priorité l'intérêt national américain.
Ça, c'est vraiment fondamental, je voulais juste rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, le burden sharing, le partage du fardeau, c'est le partage des moyens, mais c'est aussi le partage de la prise de décision. Et ce qu'on voit, c'est que le leadership d'Obama, notamment, et c'est sans doute là où les Européens ont été déçus, c'était pas un co-leadership. Souvent, on commence à travailler ensemble sur, par exemple, l'accord nucléaire iranien, sur la crise en Syrie, et très souvent dans les dernières étapes de négociation, les Européens se trouvent mis à l'écart et se négocient en binôme. Donc les Américains avec les Iraniens et aujourd'hui c'est les Américains et les Russes en Syrie, alors que la France était très présente au début. Donc effectivement, je pense que ce manque de co-leadership abîme aussi la manière dont on coopère avec les Américains. Et ça, ce sera à redéfinir avec le ou la prochaine présidente des États-Unis.
D'autant que les Européens sont souvent perdants dans ce processus. Xavier Martinet.
Oui, justement. si on comprend bien ce que vous dites, du coup, l'équipe Obama a dû redéfinir l'Europe comme une zone stratégique et redéfinir ses relations stratégiques avec. Mais alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce lead from behind, diriger de l'arrière? Est-ce que c'est pas simplement une instrumentalisation de la capacité stratégique européenne, si vous dites qu'il n'y a pas de co-direction, disons, de co-leading, Christian Lequen?
Je pense qu'il y a cette tentation parce qu'il y a justement la primauté de l'intérêt national américain. Mais le meilleur moyen de négocier là-dessus, c'est d'être unis, justement. Et si on veut justement aller vers ce que Alexandra de Hobbs-Kepper appelle le co-leadership, il faut que l'Europe soit unie face aux États-Unis. Si nous ne sommes pas unis, à ce moment-là, nous n'avons absolument aucune chance. Mmh. Aucune chance. Et ça, c'est la grande erreur d'appréciation des Brexiteurs, de tous ceux qui ont soutenu le Brexit, de penser que éventuellement une relation bilatérale privilégiée, y compris sur le plan stratégique, allait pouvoir se développer avec Washington à la place de l'Union européenne. Non, je n'y crois absolument pas. Donc voilà un bon argument, vous voyez, pour relancer l'Europe vis-à-vis des Américains. Si nous voulons aller vers un co-leadership, notre crédibilité, c'est d'être unis.
Dernière question sur la posture de Barack Obama. Vous parliez du rôle de consultant, Christian Lequen. C'est vrai que Barack Obama n'avait pas manqué de donner son avis sur le Brexit, notamment. Il y a deux jours, il n'a pas oublié non plus d'égratigner le gouvernement polonais sur la crise de l'état de droit qui se déroule actuellement dans ce pays. Est-ce que ces attitudes peuvent peut-être un peu qualifier la posture générale de Barack Obama en Europe, et pas seulement, mais qui tend un petit peu vers la posture de donneur de leçons?
Un petit peu, oui, bien sûr. On le ressent un peu partout en Europe. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Christian Lequen, le président français est toujours le premier à rappeler que on n'a pas besoin de recevoir de leçons des États-Unis, qu'ils ont eux aussi leur propre problème à gérer chez eux. Mais en même temps, c'est vrai que de par la présence quand même importante des États-Unis en Europe, et à fortiori depuis 2013-2014, ils ont un certain mot à dire aussi sur, je dirais, notamment les valeurs en Europe. L'OTAN, c'est pas seulement une alliance militaire, c'est aussi une alliance politique, même profondément politique. Et donc, c'est vrai que quand on voit un certain nombre de pays, la Hongrie, par exemple, qui va maintenant faire son propre référendum pour ou contre les quotas européens pour l'accueil des réfugiés, que vous avez la montée de populisme dans tous les pays, y compris le nôtre ici en France, tout ça fait que cette communauté de valeurs qui soude aussi le partenariat transatlantique se trouve effritée. Et donc forcément, il va y avoir des inquiétudes. Nous aussi, en France, en Europe, on est inquiets de ce qui se passe à Dallas en ce moment. Les questions raciales, le port d'armes, on en discute aussi en Europe. Alors peut-être qu'on l'exprime moins publiquement à l'égard des États-Unis, mais je pense que ce souci sur les valeurs qu'ils unissent et qui sont un petit peu, je dirais, chamboulées en ce moment, c'est un sujet de discussion qu'on devrait avoir d'ailleurs avec nos homologues américains beaucoup plus souvent.
Vous parlez d'inquiétude, et donc sans parler de la possible la candidature, ça on sait, mais la possible arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion sur les relations entre Barack Obama et l'Europe. Merci Alexandra de Hobbs-Kepper, je rappelle, directrice du think tank transatlantique The German Marshall Fund of the United States, co-rédactrice en chef de la revue politique américaine. Et merci à vous, Christian Lequen, professeur à Sciences Po, aux séries, membre du conseil scientifique de la Fondation Robert Schuman. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blaze the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was thought by immigrants as they struck out to the distant shores of pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Women who reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier. And the king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can. To justice and equality. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity and prosperity.
Yes, we can. Heal this nation. Heal this nation.
Yes, we can. Repair this world.
Repair this world.
Yes, we can.
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 So
we know the battle ahead will come. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand the way of the power of millions of voices calling for change.
Yes, we can. Un peu de nostalgie avec cette chanson de Will.i.am, c'était en 2008. Un Yes We Can qui pourrait inspirer Matteo Renzi, l'actuel jeune et dynamique dirigeant de l'Italie. Marquera-t-il l'histoire ou bien ne sera-t-il qu'une parenthèse de la très mouvementée politique italienne? C'est plus ou moins à cette question que devront répondre les Italiens en novembre prochain. Le référendum portera sur une réforme constitutionnelle, mais l'ancien maire de Florence l'a promis, si c'est non, il quittera le pouvoir. Il faut dire que cette réforme suscite autant d'espoir que de résistance. Connue pour ses querelles parlementaires et ses gouvernements instables, l'Italie n'a pas bonne réputation en matière de gouvernance et le président du Conseil entend bien y remédier. Tandis que le Sénat se verrait retirer presque tous ses pouvoirs, la nouvelle loi électorale entrée en vigueur la semaine dernière signerait la fin des coalitions hétéroclites et des tractations entre partis. Alors Italie, le renouveau démocratique, nous poserons la question à nos deux invités. Jacques de Saint-Victor qui est au téléphone près de Rome, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, écrivain et critique littéraire, auteur notamment de « Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique », c'était aux éditions Gallimard en 2012. Et puis vous venez de publier « Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d'Italie » aux éditions Les Équateurs, tout récemment, qui est un très beau récit de voyage sur cette très vieille route d'Italie. Et puis nous sommes en compagnie de Anaïs Ginori. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante du quotidien italien à Paris, La Repubblica. Et puis, alors, on va en discuter donc tout de suite, mais tout de suite, c'est le portrait du jour avec vous, Xavier Martinet. Vous nous présentez le 12e président de la République italienne, Sergio Mattarella. Un homme discret, réputé droit et incorruptible.
Discret en tout cas, c'est bien le cas pour Sergio Mattarella, bientôt 75 ans, dont 25 de vie politique assez fournie. Il a été élu largement en février 2015, mais son mandat est passé jusqu'ici relativement inaperçu. Depuis un an, on voit en effet le président dans toutes les assemblées, expositions ou commémorations, mais on le remarque peu. Et pourtant, c'est bien lui qui vient de prendre une importante décision politique en fixant il y a deux jours, au 6 novembre, la date du référendum sur la réforme constitutionnelle. Un choix astucieux après le week-end de la Toussaint qui aurait mobilisé les habitants dans les cimetières et en famille plutôt qu'au bureau de vote et risquait donc la chute du gouvernement. Homme discret et actif, on le voit Mattarella. D'ailleurs, en ce début du mois de juillet, une partie de la presse politique italienne bruisse de ses paroles qu'il faut comprendre à demi-mot. Comme les analystes politiques du Corriere della Sera, ils s'interrogent. En cas de victoire du non, le Premier ministre, le gouvernement et le Parlement devront prendre acte, même si, ajoute-t-il, ce n'est pas à moi de le dire. Alors ce n'est pas à lui non plus de conduire la politique et c'est là justement toute la ligne de conduite de Sergio Mattarella en tant que président de la République italienne. Pourtant, son élection l'année dernière est bien un choix politique, celui de Matteo Renzi. Coup de maître, disait un journaliste à l'époque, il s'agissait de trouver un remplaçant consensuel et garant d'une certaine stabilité alors que les assemblées déchirées avaient usé pendant 10 ans le vieux Giorgio Napolitano et que le Parti démocrate était fragilisé. Si c'est donc pour Renzi l'année
cabinet du qui tout double, on pourrait dire que Mattarella est un des premiers paris de Renzi. C'est le candidat sur lequel nous jouons notre crédibilité. Il n'y en aura pas d'autre, avait-il affirmé. Et pourtant, en tant que figure politique, Mattarella est en un sens l'anti-Renzi. Il est venu tardivement à la politique, juriste de formation et non pas issu du marketing. Son allure physique est d'ailleurs une antithèse de l'animal électoral qu'est Renzi. Lui, il est petit, engoncé dans un costume qui paraît trop grand, la tête presque basse et enfoncée dans les épaules. Il passe toujours furtivement et ne sourit presque jamais aux caméras. Son visage est austère, une grosse paire de lunettes, une grosse touffe de cheveux blancs, plaquée en arrière. On décèle encore chez lui les traits d'un Sicilien, si vous voulez. C'est un peu la version âgée de l'acteur italo-américain Michael Imperioli, habitué des rôles de mafieux. Et pourtant, Mattarella est apparemment tout sauf un mafieux. Insoupçonnable, lisait-on dans la presse, on le dit même symbole de la lutte anti-mafia, ce qui nous renvoie à l'aube de sa carrière politique en 1980. Une photographie de l'époque donne une idée du personnage, presque tragique. Elle est prise de l'intérieur d'une voiture, du côté du conducteur. Il y fait sombre, on y voit les jambes d'un homme que l'on extrait du siège avant. À droite, sur le siège arrière, une femme est penchée sur lui, se lamente en se cachant le visage. Et au fond de la photo, dans la lumière de la rue, un autre homme, agenouillé, soutient le corps sans vie. Alors on pense automatiquement à une descente de croix, à la Pietà de Michel-Ange, sauf qu'à la place de Marie, c'est Sergio Mattarella, et à la place de Jésus, c'est son frère, Pier Santi Mattarella, président de région de Sicile à l'époque, qui vient d'être assassiné par la mafia en 1980 donc. Les histoires diffèrent et la légende naît ici, c'est à ce moment-là que Sergio Mattarella entre en politique, son destin s'accélère et sa réputation d'homme rigoureux commence à s'affirmer. Avant d'être élu, il était d'ailleurs au Conseil constitutionnel depuis 4 ans. Et on retrouve d'ailleurs toujours les mêmes traits marquants dans son action et son attitude, même en tant que président, ses manières de juriste quand il parle de l'union civile, par exemple, dans ses vœux au début de l'année, il appelle ainsi à, je cite, « combler un manque dans la loi », ou bien la ferveur catholique quand il va prier devant le Saint-Suaire. Son père, d'ailleurs, était directeur d'un journal catholique et antifasciste. Et puis aussi une forme de vraie simplicité, lui qui préfère rouler dans sa vieille Fiat Panda grise plutôt qu'en berline officielle. Alors aujourd'hui, il tient avant tout à renvoyer l'image d'un presidente notaio, comme l'écrit le quotidien Il Giornale, du nom d'une fonction ancienne apparue dans la Lombardie du Moyen-Âge, entre le notaire et l'arbitre. En privé, d'ailleurs, il aurait plusieurs fois confié son désir de garantir l'accession sans heurts de la législature actuelle aux élections de 2018 pour, dit-il, garantir le sérieux du système italien. Alors, est-ce une manière fine de jouer sa propre part dans le projet Renzi? Dans l'homme effacé, il y a peut-être aussi l'homme plein d'ambiguïté secrète. C'est vrai, Beppe Grillo disait ainsi que Mattarella est un hologramme. Alors, instrument de Renzi ou une entente bien comprise pour la transparence et la stabilité, à voir qu'apporte vraiment Sergio Mattarella au système italien et à Renzi. Est-ce un emblème ou voire un fantasme d'une politique italienne que l'on rêve indépendante, droite et humble à la fois, ou bien le symbole d'un système incapable de réserver une place autre qu'honorifique aux hommes d'honneur? C'est peut-être le cas de tous les systèmes politiques, mais le risque est aussi à terme que Mattarella n'apparaisse plus que comme un produit dévitalisé, disons, d'un système qui veut absolument éviter l'homme fort ou providentiel. De ce point de vue, en tout cas, Paris réussit. Sergio Mattarella est loin des coups de menton ou des sourires enjôleurs. Lors de son élection l'année dernière, il a prononcé seulement 19 mots. Mes pensées vont avant tout, par-dessus tout, aux difficultés et aux espérances de mes concitoyens. Ça suffit. Merci.
Jacques de Saint-Victor, entre la réforme électorale et la réforme constitutionnelle qui s'apprête à être votée par référendum en novembre, ce sera en novembre, est-ce qu'on peut parler de changement de régime politique pour l'Italie?
Ah, si jamais, en effet, les Italiens votent oui au référendum de novembre, il y aura un changement important, non seulement de régime, mais peut-être d'habitude, de mode de penser la politique. C'est-à-dire que, pour faire des comparaisons très simples et un peu évidemment forcées, on pourrait, si jamais le référendum est remporté, comparer Renzi à une sorte de petit De Gaulle italien, puisqu'on passerait d'un système très parlementaire, de parlementarisme absolu, comme on disait chez nous sous la 4e République, à un régime beaucoup plus... disons rationnel, pour reprendre des expressions d'un parlementarisme rationalisé. Bon, mais ça, il faut évidemment que la réforme passe en novembre au référendum. Et c'est depuis les élections municipales dernières qui viennent de se dérouler il y a très peu de temps, c'est loin aujourd'hui d'être acquis. Donc en très peu de temps, le climat politique a changé en Italie.
Est-ce que l'objectif, Anaïs Ginori, c'est aussi de changer, au-delà des pratiques, l'image de l'Italie et cette image d'instabilité politique notamment ?
Oui, bien sûr. C'est pas vraiment nouveau dans le sens que finalement, on se rend compte que ça fait plus de 20 ans que l'Italie fait des réformes électorales. Donc la première d'ailleurs était en 93 avec Sergio Mattarella qui avait donné son nom à la loi électorale Mattarellum. Et depuis, il y a eu en 2005 une autre loi qui était la Legge Calderoli et qui reprenait, c'est-à-dire Mattarella avait fait un système majoritaire, après une longue tradition de système proportionnel. Calderoli était revenu sur une base proportionnelle. D'ailleurs, c'était une loi qui ne garantissait pas du tout la gouvernabilité. On a même surnommé cochonnerie comme loi. Et finalement, Renzi revient à un système majoritaire, qui est cette la loi Italicum qui a été approuvée, mais avec vraiment, vous disiez, l'idée de donner une gouvernabilité et surtout une prime à un parti, parce que c'est ça. De fait, l'idée c'est qu'il y a deux tours et c'est au deuxième tour c'est un parti qui doit en remporter, donc les coalitions doivent disparaître. Et évidemment, cette loi, avec la réforme constitutionnelle qui est donc l'objet du référendum, qui est une réforme qui veut limiter au maximum le bicaméralisme parfait en...
D'ailleurs, rappeler que c'est un peu une exception, l'Italie, avec ce qu'on appelle ce bicaméralisme parfait, deux chambres, le Sénat, l'Assemblée, qui ont le même pouvoir.
Voilà. Ben, là aussi, ça, c'est l'histoire de l'Italie. Ça a été fait dans l'après-guerre. C'était conçu pour justement un pays qui avait eu le fascisme, donc une dictature. Le bicaméralisme parfait devait garantir, des contre-pouvoirs très forts. Donc Renzi, mais c'est aussi évidemment le risque d'ingouvernabilité et qui a fait pendant des décennies le fait qu'il toute réforme, toute mesure politique devait passer par les deux chambres, c'était toujours très compliqué. Et là, Renzi, il a de fait enlevé tous les pouvoirs au Sénat, il a diminué par trois le nombre d'élus et ça ressemble plus, disons, au Sénat français. Ça s'approche de ce que connaissent les Français comme le Sénat. Et donc ces deux réformes, en fait, la réforme constitutionnelle avec l'abolition de fait du Sénat, enfin de ce qu'était jusqu'à présent le Sénat, et une forte emprise majoritaire dans la loi électorale, c'est évident que ça fait, on peut craindre l'arrivée d'un homme fort. Alors ce qui est paradoxal, c'est que Renzi a fait cette loi un peu sur mesure pour lui et pour le Parti démocrate quand il était à 40% de consensus dans les sondages. Et donc cette loi devait en quelque sorte lui permettre de gouverner comme homme fort. Et puis comme on venait de le rappeler, maintenant il est très descendu dans les sondages. Et cette loi, paradoxalement, peut donner de l'avantage au mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui a fait de très bons scores dans les municipales et qui, dans les sondages, risque de prendre la mise sur le Parti démocrate et Renzi.
Jacques de Saint-Victor, avec ces réformes qu'on nous les a bien détaillées, Anaïs Ginori, l'Italie se confronte à son passé quelque part, à des institutions qu'elle avait mises en place pour éviter le retour du fascisme.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anaïs sur la loi électorale. Je suis un peu moins d'accord avec la réforme constitutionnelle. Ça va beaucoup plus loin que le Sénat à la française, puisque là, dans la réforme qui est prévue, les sénateurs ne seront plus du tout élus, même pas au suffrage indirect. Ils seront désignés à partir de conseillers régionaux ou de conseillers municipaux. Donc c'est vraiment, on a vraiment mis fin de manière plus radicale encore à la fonction... Enfin, à ce qu'on peut appeler le bicaméralisme, et qui évidemment était un bicaméralisme parfait en Italie, qui était au fond celui que nous connaissions sous la Troisième République.
Hein. Vous trouvez qu'il est allé trop loin en ce sens ?
Non, je ne sais pas s'il est allé trop loin. Je pense que ce qu'a dit justement Anaïs, c'est ça le cœur du problème, c'est qu'il a péché un peu par orgueil en préparant une loi électorale sur mesure, à l'époque où il était très très haut dans les sondages. Rappelez-vous, lors des élections européennes, il avait obtenu plus de 40% des voix, et donc il a pensé que ça pourrait se maintenir et qu'ainsi il raflerait la mise. Or aujourd'hui, on se trouve devant la situation suivante. Depuis les élections municipales, en particulier La question a été, l'éclairage a été mis surtout sur Rome, mais c'est en réalité Turin qui lui a posé un énorme problème, c'est que tout d'un coup, il a vu que il pouvait perdre, et pas seulement dans une ville comme Rome, où du fait du scandale Mafia Capitale, il était à peu près déjà prévu que ce seraient les 5 étoiles qui seraient élues, mais en revanche, Turin a été une énorme surprise et une énorme claque. Donc là, la question qui aujourd'hui agite les milieux gouvernementaux, c'est, et si la réforme électorale donc était la réforme électorale est adoptée, si le oui au référendum passe, et si nous procédons à des élections selon la nouvelle loi électorale, et si les 5 étoiles emportaient la mise. Donc là, aujourd'hui, en quelques jours, le climat, comme je le disais, a beaucoup changé. C'est-à-dire que l'inquiétude, c'est avoir voulu donner, en effet, un nouveau système électoral beaucoup plus efficace, mais qui pourrait se retourner et donner, au fond, la majorité à des gens qui, jusqu'à présent... Alors après, on sait bien que, selon le mot fameux, un jacobin ministre n'est pas nécessairement un ministre jacobin. Donc on peut penser que peut-être les 5 étoiles changeront. D'ailleurs, les expériences de Rome et de Turin vont être analysées à la loupe pour savoir si en effet ce sont des gens capables ou non de diriger. Mais jusqu'à présent, l'idée est qu'ils sont plutôt assez peu capables de diriger. Et donc si jamais le pays se donne aux 5 étoiles, alors là, on est dans... dans l'équipé, on ne sait pas où on va.
Jacques de Saint-Victor, vous avez évoqué le scandale de corruption Mafia Capitale. Justement, Matteo Renzi a en partie assis sa légitimité sur un discours de renouveau démocratique, de renouveau des pratiques contre la bureaucratie, la corruption, etc. Est-ce qu'on peut attendre aussi de ces réformes électorales et constitutionnelles un renouveau en termes de conception, de pratique de la vie politique, Anaïs Ginori?
C'est d'un point de vue symbolique, la réforme électorale et les réformes constitutionnelles ont été confiées à cette jeune ministre Boschi qui est devenue la protagoniste absolue de toutes les batailles politiques de ces derniers mois. Et donc c'est vrai que déjà elle représente ce renouveau qu'a voulu porter Renzi, elle qui a défendu en première ligne toutes ces réformes. Et donc c'est vrai que il y a comme ça des éléments de ce renouveau qu'a voulu porter Renzi. Mais après, je pense, le fait, c'est que, comme disait Jacques de Saint-Victor, maintenant, Renzi, il est déjà, après plus de 2 ans, usé par le pouvoir. Et donc, sa promesse de renouveau, il était arrivé au pouvoir en promettant de rottamare et de mettre à la casse la classe dirigeante. On a vu, il a apporté du renouveau, mais il y a aussi beaucoup de personnel politique qui est resté. D'ailleurs, le maire de Turin qui s'est fait battre par le mouvement 5 étoiles à Turin, c'était Piero Fassino, un dirigeant du Parti démocrate très respectable, mais qui en politique depuis 1969, donc c'était le candidat du Parti démocrate à Turin, il a été battu, donc on voit que même Renzi atteint ses limites, et que là, du coup, le renouveau est porté en ce moment par le mouvement 5 étoiles, avec ce jeune, très jeune dirigeant qui s'appelle Luigi Di Maio, qui vient d'avoir 30 ans, et qui se voit déjà Premier ministre, et voilà, donc c'est au jeu du renouveau, il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui semble un peu plus nouveau de l'autre, et c'est un peu ça qui est en train de se passer, et pour Renzi, c'est vrai qu'il y a un scénario au catastrophe qui pourrait être qu'en novembre le référendum est non, lui il a promis de démissionner, donc du coup il irait voter, il serait obligé, enfin après il y a beaucoup d'incertitudes sur ça et notamment le président de la République pourra décider autrement, mais si Renzi perd le référendum, on irait voter en Italie avec cette loi qui non. Du coup ferait gagner le mouvement 5 étoiles.
Jacques de Saint-Victor.
Avec la décision de la Cour constitutionnelle qui a annulé la précédente loi électorale, on se retrouverait avec une loi électorale qui serait extrêmement qui serait une sorte de proportionnelle pure, donc il est clair que je pense, ça me paraîtrait complètement hallucinant que le président de la République provoque des élections anticipées. Il serait conduit plutôt à nommer un gouvernement technique pour voter en urgence une nouvelle loi électorale, parce que La loi qui a été votée ne prévoit que la réforme pour la Chambre, pas pour le Sénat. Donc le Sénat serait élu sur une proportionnelle quasiment intégrale, ce qui rendrait totalement ingouvernable le pays. Donc ça me paraît peu probable, mais En effet, les rêves de renouvellement, bon, c'est toujours des tartes à la crème politique parce qu'on met 2-3 personnes nouvelles. Aujourd'hui, ce qu'a dit Anaïs Genoré est très juste, il y a déjà un sentiment d'usure et les jeunes personnalités qui ont été nommées, elles apparaissent plutôt aujourd'hui pour, par leurs limites, c'est-à-dire peut-être des personnages assez peu, au fond, n'ayant peut-être pas justement assez d'expérience et de substance pour porter de telles réformes.
Une dernière toute petite question à tous les deux, on n'a plus beaucoup de temps, il reste une minute. Est-ce que, avec les réformes institutionnelles et constitutionnelles, plutôt qu'une présidentialisation du régime politique, on va vers une personnalisation de la politique en Italie? Anaïs Genoré, rapidement.
Oui, ben ça, malheureusement, malheureusement, il faut le constater, c'est pas très nouveau parce qu'en Italie, on a quand même eu presque 20 ans de Silvio Berlusconi, qui était quand même pas très politique, mais plutôt une personnalité. Donc, c'est pas nouveau et c'est vrai que l'Italie, dans ce sens, a été un peu laboratoire de ce qui se passe aussi dans notre pays.
Eh bien, merci. C'est déjà la fin de cette partie consacrée à l'émission. On arrive à la fin et comme chaque dimanche de l'été, c'est maintenant l'heure de la chronique d'Hubert Védrine. Bonjour Hubert.
Bonjour. Au cours de cet été, je vais aborder dans de brèves chroniques dominicales un thème piquant. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, pour commencer, je vous parle du politiquement correct. Au départ, quand il apparaît dans les universités américaines des années 70, très influencé par les déconstructeurs français, Derrida, Lacan, Foucault, etc., qui n'ont d'ailleurs que trop bien réussi, le politiquement correct part d'une volonté louable d'éviter tout ce qui peut porter atteinte dans le langage courant à la dignité et à la sensibilité de certains groupes qui sont ou se sentent maltraités. C'est ainsi que le balayeur deviendra un technicien de surface, le sourd un malentendant, etc. Et bien sûr, on pense au très puissant mouvement féministe américain à l'origine. On connaît la longue liste de ces euphémismes ou des corrections de mots qui en découlent. Mais comme ce mouvement est surtout aux États-Unis au départ le fait de minorités ethniques activistes, c'est elles qui vont obtenir que ne l'on dise plus par exemple « nègre », sauf dans « art nègre », mais « noir », c'est-à-dire « black », puis « afro-américain », en attendant l'euphémisme suivant, quand même « afro-américain » sera jugé péjoratif. Peut-être dira-t-on « human being ». En France, où cette influence est arrivée une quinzaine d'années plus tard, le courant équivalent voudrait par exemple abolir le mot de « race ». Et question, contre quoi serait alors dirigé l'antiracisme? Ce mouvement croit que l'on peut effacer la chose en gommant le mot. Au bout du compte, en partant de bonnes intentions, on en arrive, et puisque cela vient de campus américain, ce n'est pas un hasard, à un nouveau puritanisme. André Comte-Sponville, le meilleur analyste en France de ce courant de l'alluminisement, montrait, en soulignant la confusion entre le fait d'opposer le vrai et le faux, et, ce qui est très différent, le bien et le mal. Un peu l'équivalent des feuilles de vigne sur le sexe des statues de l'ère victorienne, ou plus récemment de statues voilées pour la visite de dignitaires iraniens en Italie, par exemple. C'est la moderne police du langage, brigade de la vertu, qui se croit chargée d'une vigilance sémantique pour traquer les dérives ou les dérapages selon ses critères. Albert Camus, je sais qu'on pense qu'on le cite beaucoup, parfois trop, mais vous m'excuserez de le faire, car je lui voue une passion depuis l'âge de 13 ans, avait tellement raison quand il disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On y est en plein. Donc de bonnes intentions et à l'arrivée, un monde orwellien. J'ajoute que ce dont nous parlons concerne les Occidentaux, et donc en premier lieu les langues anglaises et françaises. On ne sache pas que cela préoccupe les locuteurs des langues chinoises, arabes ou russes. Donc finalement, c'est devenu un des aspects de l'offensive interne multiforme contre la civilisation occidentale et son héritage. Mais là aussi, l'équilibre a été perdu. Bien sûr, on peut souhaiter que la civilisation à laquelle on appartient se corrige, s'améliore, se réforme, arrive à réduire ses propres dérapages ou excès, sans vouloir pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc se soumettre à une sorte de tyrannie, y compris linguistique, de groupes activistes. On a pu dire que la seule minorité dont les droits légitimes ne seraient plus défendus serait la majorité. D'accord donc pour ne pas blesser inutilement les uns ou les autres, pas pour qu'on ne puisse plus mettre un nom sur les réalités et qu'une obligation de parler une langue approximative et brumeuse finisse par nous couper de tout, somnambules, déboussolés. C'est le cas à propos par exemple de l'islam et tout ce qui concerne l'islam, j'en parlerai dans une autre chronique. Conclusion. Il faut retrouver la raison politique et sémantique.
Merci Hubert Védrine. Quant à nous, les réformes politiques en Italie, nous continuerons de suivre le dossier, notamment en novembre, au moment du référendum. Merci à nos invités, Jacques de Saint-Victor, historien et écrivain. Je rappelle vos deux ouvrages, Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, chez Gallimard en 2012, et puis Via Appia, voyage sur la plus ancienne route de l'Italie, paru aux éditions Les Équateurs. Merci à vous, Anaïs Ginori, correspondante du quotidien italien La Repubblica à Paris. Je rappelle l'ouvrage que vous avez publié cette année, Le kiosquier de Charlie, et c'était aussi aux éditions Les Équateurs. Toutes les références, mais aussi le podcast sur franceculture.fr, une émission Une semaine dans le monde. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation, Xavier Martinet, Fanny Richer et Mao de Butler. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jacques Hubert. On se retrouve dimanche prochain, 12h40. En attendant, il est presque 14h. Très bel après-midi sur France Culture.